Éphésiens chapitre 3, versets 2 à 6 pour la méditation de ce jour. Éphésiens chapitre 3, versets 2 à 6. Au nom de Jésus. Vous avez certainement entendu parler de la tâche que Dieu, dans sa bonté, m'a chargé d'accomplir pour vous. Dieu m'a accordé une révélation pour me faire connaître son plan secret. J'ai écrit plus haut quelques mots à ce sujet. Et en les lisant, vous pouvez vous rendre compte de la connaissance que j'ai du secret qui concerne le Christ. Dans les temps passés, ce secret n'a pas été communiqué aux hommes, mais Dieu l'a révélé maintenant par son Esprit à ses saints apôtres et prophètes. Voici ce secret. Par le moyen de la bonne nouvelle, les non-juifs sont destinés à avoir part avec les juifs au bien que Dieu réserve à son peuple. Ils sont membres du même corps et participent eux aussi à la même promesse que Dieu a faite en Jésus-Christ. Amen. Les paroles de l'auteur dans ces quelques versets sont assez fortes, à la limite même un peu prétentieux quand on l'écoute pour la première fois. Je reprends. Vous avez sans doute entendu parler de la mission que Dieu, dans sa beauté, m'a confiée en votre faveur. C'est Paul qui parle. Dieu, par une révélation, m'a fait connaître le mystère de son projet. Comment comprendre ces paroles ? Deux termes, je pense, se dégagent de ces quelques versets. La première, mystère, et la deuxième, révélation. Et les deux mots sont interdépendants. Et la question qui se pose, quel est ce mystère que Paul en parle et qu'il faut révéler ? Ce n'est pas juste un mystère qui doit se laisser de côté, mais qui doit être révélé, qui doit être mis à la lumière, puisqu'on est dans l'épiphanie, révéler le mystère de Dieu. Comme les rois mages qui sont venus parce qu'ils ne savaient pas encore de quoi ils vont tomber, sur quoi ou sur qui, en suivant l'étoile. Au verset 2, Paul se considère comme étant l'intendant, en tout cas dans la version NBS, l'intendant de cette révélation. Et les bénéficiaires de cette révélation sont les non-juifs. Il parle de sa mission. À savoir que les non-juifs ont un même héritage et sont un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par la bonne nouvelle. Voilà le mystère qu'il faut révéler. Et peut-être nous serions peu déçus d'entendre que ce n'est que ça, le mystère en question. Oui, cela peut nous sembler si banal à nos yeux. Mais rappelez-vous ce qui s'était passé avec Pierre d'abord, l'apôtre Pierre. Un jour, dans les Actes des Apôtres, il avait vu une vision, un grand drap qui descendait du ciel plein d'animaux. Ces animaux qui étaient considérés comme étant souillés, interdits à manger, selon la loi lévitique. Et pourtant, une voix qui vient du ciel lui a ordonné d'en tuer un pour se nourrir et lui a dit de ne pas considérer comme souillé ce que Dieu a purifié. Pierre n'avait pas compris cette vision qu'il a vue. Mais quelques minutes après que le drap est remonté dans le ciel, des personnes envoyées par Cornel frappa à sa porte et demanda de venir chez lui à la suite d'une recommandation de l'ange, et aussi de l'apparition de l'ange de Dieu, qui lui a confirmé que la prière de Cornel était entendue par Dieu. Et ce n'est qu'à cet instant-là que Pierre avait fait le lien entre ce qu'il avait vu et ce qui s'est en train de passer. C'est une révélation. Révélation veut dire dévoiler, comme dans l'Apocalypse. Il faut dévoiler, enlever le voile pour que les choses soient claires. Et que même les personnes qu'ils ne pensaient pas faire partie du royaume des cieux ont bel et bien leur place dans le royaume. Voilà le message pour aujourd'hui. Même si on n'a pas prêché sur l'évangile pour l'épiphanie, qui aurait pu imaginer que des rois mages, des astrologues viennent rencontrer Jésus par leur propre connaissance païenne, pas par la parole de Dieu? On a toujours eu cette habitude de croire, voilà seulement, c'est la parole qui va nous éclairer, mais eux, ils ont été amenés par leur science. C'est étonnant de voir, même la science peut révéler la sagesse divine. Et c'est là qu'ils se sont agenouillés devant le Fils de Dieu. Pour bien saisir la gravité de ce que Paul dit ici, c'est qu'il faut se mettre, je pense, dans la peau des Juifs de l'époque de Jésus, qui croyaient qu'ils étaient les seuls et l'unique peuple élu de Dieu. Que seul Dieu se révélerait à eux, seul, mais pas aux autres. Et donc se mélanger avec les autres nations païennes dans leur connaissance et leur foi les rendrait impurs. Si on se mélangeait, si on se frottait avec ces païens, on devient impur. Et même nous, les chrétiens, aujourd'hui, on a encore aussi les restants de cette mentalité. Ne pas se mélanger avec le monde, sinon nous allons devenir impurs. C'est une pensée pharisienne. Et pourtant, Paul dit tout le contraire. Nous formons tous un seul corps. Ces païens que nous croyons être païens, et nous partageons une même promesse. Quelle promesse s'agit-il ? Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident, c'est dans l'Ancien Testament, et seront à table avec Abraham. C'est-à-dire, il y aura des Namurois, des Congolais, des Rwandais, des Malgaches, des Sud-Africains, qui viendront à la même table qu'Abraham. Or, c'était pas question dans la mentalité juive. Ils seront à la même table qu'Abraham, à la même table qu'Isaac, à la même table que Jacob. Matthieu chapitre 8, verset 11. Manger et boire à la même table avec une personne impure chez les Juifs est la pire des choses. La pire des choses qu'un Israélite éviterait tant que possible. Je l'avais déjà dit ici une fois ou lors d'une étude biblique. Si un Juif, un jour, mange, fait la fête, et qu'après qu'on lui dit que c'était une Samaritaine qui a récolté les bois pour faire à manger, pour faire cuire, il va vomir. Il va sortir dehors, il va tout faire pour tout sortir parce qu'ils disent qu'ils sont impurs à cause de ça. Et or, ici, il dit, ils vont tous manger à la même table. C'est encore grave. Et cependant, cette promesse que Dieu avait faite, Jésus est venu pour la réaliser à la lettre. Regardez dans les évangiles à plusieurs reprises. Il partageait la table avec des personnes qualifiées de pécheurs. Mais qu'est-ce que Jésus va faire chez lui, chez elle? Des personnes qu'on pensait être en dehors du royaume de Dieu, selon la société religieuse juive. Jésus qui allait chez les Samaritains. Jésus qui allait chez les personnes de mauvaise fréquentation. collecteur d'impôts, femme adultère, romain, etc., etc. Vous savez, ce n'est pas par hasard. Si Jésus avait tout fait, pour rencontrer la femme samaritaine devant un puits, est-ce que vous croyez que c'était un hasard? Que voilà, un jour, Jésus était là par hasard, fatigué, et tout à coup, il y avait une femme. Il a tout calculé. Ça ne se fait pas d'aller parler à une femme devant un puits, ça veut tout dire. Or, Jésus a bravé même tous les interdits. Son but, c'est d'aller chez elle-même, non seulement de la rencontrer là, devant le puits, mais il lui proposa d'aller chez elle. De s'y séjourner, il restait même quelques jours là-bas. Comme il l'avait fait aussi avec Zachée, quand il lui a dit, « Zachée, je dois demeurer chez toi aujourd'hui. » Beaucoup croient que c'est parce que Zachée voulait le voir sur l'arbre que Jésus voulait aller chez lui. Si vous lisez bien le texte, ce qui est écrit, lui, il était bien caché, donc il n'était pas perçu, mais c'est Jésus qui l'a vu. Et la phrase que Jésus avait dit signifie beaucoup de choses. « Je dois demeurer chez toi aujourd'hui. » Il aurait pu dire « J'aimerais aller chez toi. » Vous voyez, même dans la construction de phrases, c'est clair. « Je dois », c'est-à-dire mon programme aujourd'hui, c'est de venir chez toi. Donc si Jésus était venu à Jéricho, ce n'était pas pour la foule. C'était pour qui? Pour Zachée. Or, dans notre lecture, on croyait que Jésus était là pour faire une bain de foule. Non, Jésus n'a pas besoin de la foule. Son programme, je dois aller chez Zachée et je vais manger chez lui. Et en entendant cette parole de Jésus, cela sous-entend que le but de sa venue, c'est d'aller le rencontrer. Cela a choqué la société religieuse. Qu'est-ce qu'un rabbin fou chez un collecteur d'impôts? Les passages de Jésus dans une ville n'ont jamais été un fruit du hasard. Tout ce que Jésus a dit, tous ses itinéraires ne sont pas choisis au hasard. Si Jésus était là à tel moment, il suit un programme, je dirais même une feuille de route. Tous ses déplacements, tous ses gestes, tous ses faits, toutes ses paroles, si vous avez le temps chez vous, regardez chaque lieu, chaque parole, on les retrouve dans l'Ancien Testament. Il est en train d'accomplir la feuille de route du Père. Il n'est pas par hasard devant Zachée. Il n'est pas par hasard devant la femme samaritaine. Il n'est pas par hasard devant le centurion romain. Tout est tracé. Il vient à la rencontre de la brebis perdue. Pour cette année 2022, la vision que je sens en moi, c'est qu'il faut quitter les 99 justes et déployer toutes les énergies pour trouver juste une seule brebis. Or, dans notre raisonnement en nous, il faut laisser le seul, mais s'occuper des 99. La mission que Jésus nous donne, quitte les 99 et déploie toute ton énergie, tout ton argent, tout ton talent, tout ce que tu as pour trouver une seule brebis. Vous voyez, le paradigme dans le royaume de Dieu est différent de la nôtre. Nous aussi, à notre niveau, comment accueillons-nous ou comment regardons-nous certaines personnes qui ne sont pas de notre bord? En théorie, on sait dire de belles phrases qui résonnent comme des slogans dans notre bouche face aux étrangers, face, je dirais bien, les étrangers ici qui sont en dehors de notre réseau chrétien. Mais dès que nous sommes dans le concret avec ces gens-là, nos regards, nos considérations envers l'autre sont très durs et stigmatisants. Un païen. Il ne connaît même pas Dieu. Il ne lit même pas sa Bible. Il ne vient même pas au culte. Il ne sait même pas ce que c'est que Noël. Oui, nous faisons la même chose. je ne prends pas que Jésus ne ferait ça. Ce n'est pas le Jésus que je connais. En tout cas, c'est mon Jésus que je parle ici. Ce n'est pas le vôtre. Mais c'est un Jésus qui ose aller vers ceux qui sont différents de lui. Il n'a pas peur de s'y frotter. Il n'a pas peur d'être contaminé par l'autre. C'est ça l'épiphanie. Révèle ce mystère que tu as reçu. Où est-ce que tu vas révéler cette lumière? Si vous allez allumer une bougie, vous n'allez pas dans un endroit où il y a déjà de la lumière. Ça sert à quoi? Va dans la salle où il fait noir. Là, on verra à quoi ça sert ta bougie. Oh, mais moi, j'ai peur du noir. Mais à quoi ça sert ta bougie alors? Et c'est là le problème, je pense, du christianisme aujourd'hui. On veut rester juste entre nous, s'entretenir mutuellement. Je ne dirais pas que c'est une perte de temps. Mais l'épiphanie, les rois mages qui sont venus de loin pour chercher cette lumière, de loin. Les bergers qui étaient dans les champs, ils se sont déplacés. Les anges qui étaient là-haut, ils venaient pour célébrer cet enfant. C'est ça l'esprit de l'épiphanie. Ce n'est pas juste manger des galettes. N'avez-vous pas remarqué, plus on a balancé les slogans aujourd'hui, je regarde un peu dans la société, les slogans antisémitisme, antiracisme, il y a tous ces mouvements un peu partout, un peu à la mode, anti-ceci, anti-cela. Oui, c'est beau. Mais plus les fractures et les cloisons sociétales se font de plus en plus ressentir, c'est mon impression. Plus on a milité contre ces choses-là, plus on sent que les gens sont en plein dedans. C'est comme si on veut se cacher derrière ces luttes. Il ne suffit pas d'aller dans les manifs. Il ne suffit pas de voter des lois, des textes de loi. Ou de faire des livres, de sortir des livres sur le sujet pour combattre ces fléaux dans la société. Ne soyons pas dupes. La source du vrai problème, c'est le cœur de l'homme qui est mauvais. Ce n'est pas dans les textes. Ce n'est pas dans la rue. C'est là que ça se trouve le problème. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu lui-même qui l'a dit juste après la fin du déluge. Quand il a rasé le monde, Dieu a fait un constat amer. Genèse chapitre 8, verset 21, voilà ce qu'il avait dit. « Le cœur des humains est disposé au mal depuis leur jeunesse. » Même Dieu dit, « Il est compliqué, l'être humain. » Alors, seul à la croix de Golgotha, que les murs et les cloisons pourront tomber. Seul le sang de Jésus-Christ versé à la croix peut unir les gens dans le monde. Car en lui, nous formons un seul corps, dit le texte. Et la conséquence directe, c'est ce qui était dit dans Galates chapitre 3, verset 28. Vous tous, en effet, vous avez été unis au Christ. Il n'y a plus ni juif, ni païen. Il n'y a plus ni esclave, ni citoyen libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. En effet, vous êtes tous un, unis à Jésus-Christ. La croix, qui est un symbole d'unité des chrétiens, unité des enfants de Dieu, seule à la croix que l'unité est possible. Amen.